Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et action!
Le territoire d'Engrenage, c'est l'Est parisien et la banlieue est Paris. Je suis Vera Peltekian, je suis chef de projet fiction, c'est-à-dire que je m'occupe des séries françaises et parfois de coproductions internationales côté Canal+. C'est un Paris non touristique, donc je pense que c'est un élément de vérité qui effectivement frappe les esprits. Il y a pas mal de séries qui montrent Paris avec des plans qui sont un peu artificiels. Et là, les plans de Paris s'intègrent très naturellement dans l'histoire. C'est des images qui racontent une histoire contemporaine de Paris, un empilement architectural qui est celui de Paris actuellement, notre Paris dans lequel on vit tous les jours.
La ville est un personnage, que ce soit le centre-ville de Paris ou la banlieue.
Frédéric Jardin, réalisateur d'épisodes des saisons 5, 6 et 7 d'Engrenage.
C'est un personnage essentiel, c'est peut-être même le premier personnage qui vit, qui respire et dans lequel nos personnages sont en immersion complète.
Avec les RER, les trains de banlieue, les métros qu'on voit passer, le tramway, tout ça, c'est derrière nos personnages. Moi, j'y attache beaucoup d'importance.
Dans la saison 6, après son viol, on retrouve Joséphine c'est au bord de la Seine, un endroit assez étonnant à l'Arsenal, là-bas à Bastille, où il y a à la fois une écluse, avec la sortie du canal Saint-Martin qui débouche sur la Seine et le métro qui passe au-dessus. Elle émerge, elle est pieds nus, sa robe est à moitié déchirée, elle est totalement, évidemment, perdue. On est avec elle, en fait. On découvre, et on va découvrir au fur et à mesure, ce qui lui est arrivé. C'est très difficile de filmer Paris pour ne pas être trop pittoresque, de ne pas être éternellement... Là, c'est plus les personnages qu'on suit qui nous entraînent dans la ville. On ne filme pas la ville avec les personnages. C'est pas dans ce sens-là. C'est nos personnages qu'on suit. Mais il y a un souci de ne pas du tout être pittoresque, même si on est à des moments, on aperçoit la Tour Eiffel de loin, ou tel monument, l'opéra, etc.
Au départ, l'idée qui avait été proposée par Alexandre Acler à son père, le producteur Alain Clerc, c'était un projet qui était un peu la vie quotidienne dans un palais de justice. Et dans un palais de justice d'une petite ville, d'une ville de province.
Guy-Patrick Saint-Drichin, scénariste en chef de la saison 1 d'Engrenage.
Canal Plus a dit « Ah non, non, on veut tourner au palais de justice de Paris parce que c'est plus spectaculaire ».
Nos protagonistes, c'est à la fois le procureur, notre équipe de flics, Joséphine Carlson, l'avocate, et le juge Roban, François Roban. En fait, l'idée, c'était qu'ils puissent se retrouver chaque saison, si vous voulez. Et c'était crédible dans un petit palais de province, alors que ça ne l'est pas au palais de justice de Paris.
Alexandra Claire, créatrice de la série Engrenage.
Donc l'idée de Fabrice Apatelier, c'était de dire profitons de ce que Paris est une ville magnifique, que nous y vivons tous pour pouvoir tourner à Paris. Et c'était une idée géniale, et ça on en avait discuté ensuite avec mon père, en se disant mais on va faire à l'américaine, comme Miami Vice, on va vendre Paris. Et finalement, on s'est beaucoup attaché à ce décor parisien, à faire vivre Paris. Notre avocate est parisienne, les flics sont à Paris, ça se passe à Paris. Alors bien sûr, on va dans la banlieue, mais c'est vraiment une compétence parisienne.
Ils sont où ?
Sur une scène de crime dans le 19e.
Où ça exactement ?
Au 36 rue de Crime.
La grande ville nous intéressait en fait. Parce que dans mon souvenir, c'était non seulement la province, mais c'était une petite ville. Ce qui peut être intéressant... Mais c'est une série complètement différente.
Fabrice de la Batelière est directeur de la fiction chez Canal+.
Et on voyait déjà sur France Télé, sur France 2 et sur France 3, qu'ils exploitaient beaucoup cette province. Donc c'était aussi une manière de nous démarquer, même s'il y avait d'autres séries policières à Paris. Et puis, les consultants, c'était des consultants qui travaillaient à la préfecture, au palais de justice. Donc, on avait une connaissance de Paris. La province, il aurait fallu le travailler autrement.
Mademoiselle Carlson, est-ce que vous pouvez leur expliquer ?
Pour le cabinet, ça ne fait aucune différence que vous soyez condamné ou pas. Ça ne change rien aux honoraires ni à la réputation de maître Escudier.
Si je perds, c'est de votre faute. Si vous gagnez, c'est grâce à moi. Et ça vous coûte exactement la même chose. Plus l'amende si vous êtes condamné à une amende.
Je m'appelle Yohannis de Roade, je suis professeur d'histoire-géographie, agrégé d'histoire et sériephile.
Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Série TV, monde d'hier et d'aujourd'hui », dans lequel j'essayais d'aborder certains espaces, certains types d'espaces à travers les séries télévisées.
On a des lieux de centralité, ça qui est intéressant d'ailleurs dans le Grand Âge, on a des lieux de centralité institutionnels, bon, extrêmement prestigieux, le palais de justice, même si finalement il nous est décrit comme un endroit qui est aussi un lieu de trahison, de compromission, bon, etc. Et puis les intrigues qui tournent sur des avocats se déroulent au moins au parti dans leur cabinet, qui eux-mêmes, ça on nous le fait bien comprendre, sont situés dans les très beaux quartiers. Et il y a le contraste effectivement avec les contrastes de personnages et contrastes de lieux, avec les policiers qui eux sont continuellement renvoyés, repoussés comme ça vers des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres, qui sont parfois plus laids, ou en tout cas montrés de manière quand même assez repoussante.
Ok, début des constats. Donc on est au 36 Ter, rue de Crimée, en haut d'un escalier, une espèce d'amoncellement de différents objets ménagers, un fauteuil club en simili cuir, un canapé, trois places en cuir, là, marron. Au milieu de tout ça, on a un sac de sport avec un buste d'homme, de type européen.
Entièrement nu.
Là, il est enveloppé dans une serviette bleue.
Évidemment, il y a l'influence de... Bon, les séries américaines, de ce point de vue-là, ont accompli leur révolution dans les années 1980.
Yohannis de Roade.
Hill Street Blues, c'est bon, la grande pionnière qui montre justement une ville, d'ailleurs, qui n'est pas nommée, qui les extérieurs étaient tournés à Chicago, et donc qui se voulait beaucoup plus dure, réaliste. Ça, c'est quelque chose qui, donc, avec quelques années de décalage, est arrivé en France et qu'on a vu donc d'abord dans PJ, et puis que Police District, bon, qui est une série... assez méconnu, qui n'a pas duré très longtemps sur M6, mais qui déjà s'intéressait à la banlieue nord-est et puis aux quartiers populaires 18e, 19e.
En tout cas, en ce qui concerne le filmage et les prises de vue autour de Paris, moi, j'avais l'idée très rapidement de me promener dans Paris.
Jean-Philippe Amard, réalisateur d'épisodes de la saison 7 d'Engrenage.
De ne pas être... sur des plans qu'on appelle ESTA, qui sont des plans de présentation de certains décors ou des plans qui ont la vertu de passer d'une séquence à l'autre avec un besoin de respiration. Moi, j'avais besoin en tout cas de créer du mouvement, parce que c'est comme ça que je vois Paris, en fait. Ça signifiait aussi pour moi quelque chose d'important, c'est que une enquête fait bouger nos personnages d'un point A à un point B, puis un point C jusqu'à la nuit, et du coup se promener, déambuler, jouer aussi avec le décor parisien entre les différents quartiers, quartiers plus populaires, quartiers plus riches. C'était quelque chose qui était à mes yeux à la fois important et essentiel dès la lecture des textes.
Bonjour.
Bonjour.
Capitaine Berthaud, 2e DPJ, c'est moi qui vous appelais.
Il y a ce qu'on appelle les DPJ, donc les divisions de police judiciaire, qui sont des services territoriaux, en fait.
Thibault, officier de police judiciaire en région parisienne.
C'est-à-dire que, par exemple, la 2e DPJ recouvrira le nord de Paris, essentiellement 18, 19, 20, le 10e arrondissement. On peut aller en banlieue, il n'y a pas de souci. Il faut que l'initiation d'une enquête, en fait, elle se fait par les faits commis. C'est-à-dire que s'il y a un meurtre, par exemple, Porte de la Chapelle, c'est dans le 18e, donc c'est la 2e DPJ qui va être saisie de ça. Et si l'enquête les emmène dans le 93, dans le 94, ils poursuivront l'enquête.
À tous, on est parti pour prendre l'autoroute direction Bobigny. Alexis Denis va rester en troisième position avant Nounours. Reçu ?
Ouais, ok, bien reçu.
Le service de police dont dépendent nos héros est un service de police qu'on a toujours imaginé être situé dans l'est de Paris. Donc c'est normal qu'il ait la compétence dans le département du 93, donc qui est un ancien département industriel avec une très forte population donc d'immigrés et de travailleurs assez pauvres.
Anne Mandois était scénariste en chef des saisons 3 à 6 d'Engrenage.
Regarde, il est mort là ! Les clubs plus lourds fumés ! Faut foutre le feu à la cité !
Il y a très très peu de séries, d'une manière générale, dans les séries françaises, qui parlent du milieu populaire, du milieu des cités, du milieu de l'immigration aussi, et des travailleurs clandestins. C'est tout un pan de la fiction qui est peu exploré chez nous. Et s'il y a bien un espace où moi je me suis vraiment régalée à le faire, c'est bien là, parce que on peut le faire de façon assez réaliste et on peut avoir même une écriture un peu politique, quoi. Et je parle surtout de la saison 6 où on est quand même sur des affaires de corruption. Il y a des choses qui existent, mais en même temps, c'est un vrai travail de réflexion de ne pas tomber dans la caricature qui déformerait la réalité, en fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui font que Engrenage n'est pas caricatural du point de vue des voyous, parce que ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, a toujours été une vraie question. Et pour ça, on a énormément travaillé avec les directrices de casting, qui sont allées elles-mêmes chercher des mecs de cité qui faisaient déjà du théâtre dans certaines associations. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, dans Engrenage. Et ils se disent pas, non, c'est encore une image réductrice.
Oh, je t'ai con, quoi, toi ? Va là-bas, avec soi, con !
Vas-y, ouvre-moi ça, c'est obligé, du foutu dehors. Vas-y, plus de force, plus de force, toi !
Mais viens nous aider, viens ici ! Vas-y, poussez ! Un, deux,
trois ! Ça bouge. Bouge, regarde, ils sont tous là.
C'est qui, Mégane Costa ?
Je sais pas, je le vois pas, attends.
Merde !
Ouvre ça, l'autre !
Moi, j'ai habité longtemps à Saint-Denis.
Thierry Godard, acteur, joue le rôle du policier Gilles Escoffier, alias Gilou.
Et donc, pendant que je tournais Engrenage, et que ce soit les flics de la BAC de Saint-Denis ou les petits jeunes de Saint-Denis, ils m'en connaissent. Et il y a quelque chose d'assez bienveillant vis-à-vis de la série. Ils savent que quand ils se font arrêter, qu'ils sont contrôlés, ben ils sont traités comme on le joue dans Engrenage.
Le repérage d'Engrenage représente à peu près entre 45 et 50 semaines de travail.
Daniel Dubois, producteur exécutif depuis la troisième saison d'Engrenage.
Engrenage est une série très appréciée, ce qui nous permet de tourner dans des lieux tout à fait vierges où les autres n'ont pas accès.
Pour les cités ou pour certains quartiers qui peuvent être dits sensibles en banlieue.
David Agège, en charge du repérage des décors sur la série Engrenage.
Donc moi, je connais quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Qui soit, je lui dis, voilà, je cherche ça, tel type de configuration ou tel type de cité, est-ce que tu as des idées ? Et il réfléchit et on y va ensemble. Soit ce qu'on a fait sur la saison 6, c'est qu'on a pris la voiture, on a bougé de cité en cité. Il me disait, qu'est-ce que t'en penses là, là, là ? Je disais, bah non, là, c'est pas ce que je recherche. Donc déjà, ça, d'avoir ce contact-là, c'est primordial. Et je sais que derrière, il va faire en sorte que ça se déroule bien. Et en plus de ça, c'était un peu le deal pour qu'il assure la sécurité ou le bon déroulement. Sécurité, ça veut tout et rien dire. L'idée, c'est qu'on ne débarque pas sur un lieu, genre en cow-boy, et salut, c'est nous, et on tourne. Pas du tout. L'année dernière, je suis tombé sur un mec sur un parking pas loin d'une cité. Là, je l'ai vu, je voyais qu'il faisait son truc. Je suis allé voir tout de suite, je dis voilà, je vais faire des photos parce que je fais un repérage, je cherche ça. Je ne vais pas te prendre en photo, est-ce que tu peux te mettre sur le côté, parce que je préfère, voilà. Mais il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, je lui explique que c'est pour Engrenage. Et je me suis rendu compte que ce mec de cité, il avait vu les 5 saisons, qu'il attendait avec une impatience la saison 6, et qui me disait, je veux rien savoir, mais ouais, ça serait cool que vous tourniez là, parce que moi, j'adore, tu vois, il dépeigne la banlieue telle qu'elle est, je trouve ça super. Et je me suis retrouvé un mec qui, sûrement, oui, qui dealait, parce qu'en fin de compte, je sais qu'il dealait, mais d'un seul coup, tu bascules sur autre chose, et donc tu te dis quand même qu'Engrenage, en banlieue, pour certains, c'est assez juste, et c'est assez bien vu et pris.
Les potes de la BAC.
On t'embarque.
Comment ça? Les mecs de TV Charlie qui t'ont vu faire un petit rodéo avec un scout volé hier.
Quoi?
Vas-y, c'est la routine. Tranquille, tu verras avec le PJ. Viens.
On le ramène.
Tranquille, viens, viens.
C'est bon, on le ramène. Ça va, c'est bon. On le ramène.
Allez, viens.
Y a rien, on le ramène.
Vas-y, grimpe. Non, c'est qui? Je la connais.
C'est une collègue.
Vas-y,
grimpe.
Doucement.
Non, vas-y.
Rentre. Non, merde. Samir a piqué, ça chauffe.
Lâche-le.
Une des choses qu'Engrenage a bien exploité, c'est la présence d'espaces vides dans les grandes villes. Traditionnellement, la série policière, c'est une série de foule, d'animation, de mouvement, et qui donc se situe plutôt dans des espaces pleins.
Ioannis de Roade.
Mais c'est vrai que les séries plus récentes ont beaucoup exploité le vide. Alors, pas forcément le vide urbain, d'ailleurs, les séries scandinaves ont beaucoup utilisé, et elles ont été pionnières, le vide côtier, le vide du bord de mer, le vide des espaces un peu indéterminés, ou même de la campagne. Et puis, il y a des séries urbaines, policières, donc, qui se sont comme ça pris d'affection pour tous les interstices vides dans une ville. Et alors, Engrenage montre ça très bien, à la fois de manière statique, quand il y a une scène, des scènes qui sont situées comme ça, dans des lieux abandonnés, finalement, assez indistincts. Justement, quand on retrouve les scènes d'ouverture de saison où on retrouve des cadavres, c'est toujours des endroits un peu inaccessibles, un peu improbables. Et puis, on est souvent dans des lieux comme ça en transition. Donc, il y a une attirance pour le vide. C'est aussi que c'est quand même un bon moyen de faire des parallèles avec... alors, ça peut être la psychologie des enquêteurs, ça peut être ce qu'on veut, l'état de la société. Enfin bon, ça c'est une impression un peu vertigineuse. Là aussi, les séries scandinaves ont été... vraiment très, très réussi de ce point de vue-là, parce qu'elles ont vraiment apporté une certaine désolation du paysage, du ciel, de l'horizon, qui était souvent celle aussi des personnages, de leur vie, de leur existence.
Laura, tous préparez-vous, on va taper le flag. C'est un temps qui se met en position, près du kiosque à tabac.
Même si de temps en temps, Engrenage aime bien retomber dans la scène de foule, elle aussi. Voilà, il y a une très belle scène tournée dans la gare du Nord dans la saison 6.
C'était en pleine menace terroriste. Il n'était pas question de tourner Gare du Nord. En plus, il y avait l'Euro, en plus de football à ce moment-là en France. La SNCF, qui aime beaucoup Engrenage, nous a laissé tourner 6 ou 7 heures dans l'enceinte de la Gare du Nord.
Frédéric Jardin, réalisateur d'épisodes des saisons 5, 6 et 7 d'Engrenage.
Ça commence par la filature, l'identification, surtout d'une jeune Rome. Qui traîne Gare du Nord avec ses petites alliées, ses petites comparses et qui est pickpocket. Enfin voilà. Qu'ils appréhendent, qu'ils arrêtent et qui va s'échapper. Et ensuite, il lui court après, à travers toute la gare, au rez-de-chaussée, puis ensuite qu'il se retrouve à la suivre vers le métro. Donc tout ça, on l'avait évidemment bien répété avant en amont. Avec les acteurs, également le régleur des cascades, parce qu'ils franchissent des portiques. Alors, ce qui est amusant, c'est pendant les répétitions, il y avait beaucoup de policiers en civil. Donc, ils pensaient que, comme nos caméras étaient assez... on tournait plutôt en longue focale, avec des caméras plus ou moins dissimulées, dans des axes, de façon à ce que la caméra... Enfin, qu'on n'ait pas des regards caméra, avec des micros HF embarqués, jamais de perche, parce que la perche, ça se remarque quasiment plus qu'une caméra dans un espace public. Les policiers intervenaient et se mettaient à poursuivre notre petite Rome. La foule n'est pas du tout au courant qu'on filmait. Donc il y a une espèce de... Les gens ont vraiment vécu la scène comme si elle était complètement réelle. Ils ne savaient pas qu'on était en train de tourner une fiction.
Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous travailler.
À tous, on prend direction la Courneuve.
Je répète, direction la Courneuve.
Ok, elle est partie, direction la Courneuve, métro, ligne 7. Alex, tu me suis ?
Ça raconte, ces dernières années, je pense, toutes les difficultés au fond, et les crimes qui sont à l'œuvre, les endroits où on trouve les cadavres, sont très symptomatiques de cette espèce, ce grand Paris qui peine à se faire. Et qui voit le jour d'ailleurs dans la dernière saison d'Engrenage. On le voit très nettement poindre, la hauteur des immeubles, et le fait qu'il n'y a plus cette marque aussi nette entre la banlieue et Paris.
Elle est remontée dans le métro, elle est toujours direction la Courneuve.
Laure, tu me récupères.
Je crois qu'Engrenage, finalement, rend plus concrète l'idée du Grand Paris. Pas sous sa forme évidemment administrative ou politique, mais justement c'est une forme qui reste encore abstraite. Sans doute pour beaucoup des habitants de cette région, mais qui la rend plus concrète par les déplacements, par les allées et venues qu'elle effectue entre le centre et la périphérie. Alors on n'y voit pas du tout toute l'agglomération, on n'en voit qu'une partie, mais on ne cesse de faire des allées et venues, on ne cesse de traverser. Enfin, il n'y a pas du tout cette idée qu'on serait dans la commune de Paris, distincte forcément d'autres. Je pense notamment à une filature qui se fait le long de la ligne 7, je crois que c'est dans la saison 3, qui est assez réussie aussi, où on voit qu'on passe comme ça de Paris à la banlieue, en suivant le métro. Il y a un certain nombre de scènes, encore une fois les scènes de filature, où on voit bien qu'on part de Paris pour traverser justement la limite du périphérique et arriver en banlieue. Et ça se fait tout naturellement, de manière très fluide. C'est vraiment une série du Grand Paris, en ce sens.
C'était le troisième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment Engrenage a-t-elle construit des personnages de femmes et d'hommes en s'affranchissant des stéréotypes ? Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu. Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt.